La musique de l'ascenseur, chapitre 28. Il n'arriva pas jusqu'au but. Un incident regrettable mit fin à son escapade alpine. Il glissa malencontreusement sur une pierre et chuta lourdement. Il se maudissait d'avoir oublié son bâton. Son premier réflexe fut de s'asseoir au beau milieu de l'amoncellement de roches glaciaires. Il vit son sac plusieurs mètres en contrebas. Il essaya de se relever. L'effort lui arracha un cri de douleur. Son genou ne répondait pas à ses sollicitations. Il comprit à ce moment-là qu'il s'agissait d'une mauvaise péripétie. Un marcheur, intrigué par la position et l'appel du blessé, le rejoignit. L'homme, sauveteur-secouriste bénévole, lui demanda de s'allonger sur le côté. Il examina l'articulation. Il confirma ce que pensait l'enquêteur, une probable déchirure ligamentaire. Il prit son téléphone portable et composa le numéro des services d'urgence. Un attroupement se produisit. Les badauds affluèrent. Il voulait voir de quoi il en retournait. Boucher détesta cet afflux de touristes d'un nouveau genre. Cela lui rappela la curiosité qu'il rencontrait dans son activité professionnelle lors des découvertes macabres. Heureusement, pour lui, ce n'était pas le cas. Il n'y avait jamais eu autant d'effervescence sur le site. Chacun voulait être aux premières loges pour l'arrivée de l'hélicoptère. C'était le seul moyen pour évacuer les clopés vers un service hospitalier. Il fallut libérer de l'espace pour permettre l'atterrissage. Le grondement assourdissant des moteurs fit s'éloigner les moins téméraires. Le pilote tourna deux fois au-dessus du site, puis se posa en douceur. Deux individus vêtus de blanc descendirent. Un troisième leur passa le matériel dans une civière. Il y avait là un praticien et un infirmier. Rompus aux interventions en montagne, ils grimpèrent rapidement vers leur patient. Le diagnostic tomba comme un couperet. Le toubib, en deux mouvements, évalua la gravité de la blessure. Il informa l'inspecteur. Il souffrait d'une rupture des ligaments internes et externes du genou. Ce qui l'inquiéta, ce fut la réponse du docteur quant à la période d'immobilisation. Il bougonnait tellement qu'il ne put entendre la réponse. Elle était déjà dans la question, il le savait. L'accès à l'appareil s'avérait trop délicat avec le brancard. Ils immobilisèrent le membre dans une gouttière et mirent des sangles pour élitreuiller Boucher. L'hélico décolla et se positionna en vol stationnaire au-dessus du groupe formé auprès du blessé. Un filin descendit lentement, ils l'accrochèrent. Le passager involontaire se balança dans les airs avant d'être hissé délicatement à bord. Les deux hommes empruntèrent le même câble. Le convoi se dirigea vers la vallée. En d'autres temps, le policier aurait apprécié la balade dans le massif de Chartreuse. Le bruit des rotors et la souffrance l'empêchaient de profiter de ce voyage. Ce n'était pas son premier vol dans un engin de ce type, mais aujourd'hui, il le trouvait particulièrement bruyant. Il songeait à l'objet de sa montée vers la Croix de l'Alpe. Comment procéder pour connaître la vérité? Échouer si près du but le minait. Sa petite musique intérieure couvrait celle des moteurs. En dépit des soucis causés par son état, il cogitait sur la suite de l'histoire. Il survolait la vallée. Dans deux minutes, il serait entre les mains expertes des urgentistes. L'appareil tournoya dans les airs au-dessus de l'hôpital. Il entama sa descente en se posant au centre d'un cercle où était peint en blanc un grand H. Aussitôt les pales immobilisées, trois infirmières s'approchèrent en poussant un lit sur roulette. En quelques secondes, il se trouva dans les couloirs de l'établissement. Sa position allongée ne lui permettait que de voir défiler les néons du plafond. La petite troupe se retrouva dans l'ascenseur, en direction du service des urgences. Il ne souffrait plus. Le médecin lui avait administré une piqûre pour alléger la douleur. La drogue montrait son efficacité. Sa présence dans le monte-charge le renvoya inévitablement à l'univers de Miles Davis. Il essayait de comprendre pourquoi ses notes de trompette pouvaient à ce point s'incruster dans un cerveau. Il se surprit de penser à cela plutôt qu'à ses problèmes actuels. Pour lui, tout se tenait. Il ne pouvait et ne voulait dissocier ce malheureux contretemps de sa quête de vérité. Il espérait simplement n'effectuer qu'un bref passage ici et repartir chez lui en pleine forme. Il se voilait la face. Dans son fort intérieur, il n'osait s'avouer le pronostic du toubib. Après les examens radiologiques, la sentence fut confirmée. Déchirure totale des ligaments internes et externes. Il réalisa l'ampleur de sa lésion et prit soudain conscience d'une immobilisation forcée de plusieurs semaines. Cette révélation le perturba au plus haut point. Il fallait intervenir vite pour éviter une rétractation trop importante des éléments sectionnés. 30 minutes plus tard, il fut transféré en salle d'opération, avec une fourmilière s'agitant à son chevet. L'opération se déroula conformément à la description faite par le chirurgien. Un bref séjour en salle de réveil précéda son installation dans une chambre à deux places. Dans son lit, l'homme avait la bouche pâteuse, sans doute l'effet des analgésiques. Il regarda autour de lui. Il trouva l'endroit assez triste. Son membre immobilisé dans une gouttière le laissait en paix. Il n'avait pas de voisin. Il était seul, terriblement seul. Un peu dans le cirage, il revoyait le plateau avec la croix de l'Alpe et son secret inviolé. Sa frustration l'amena à culpabiliser sur l'origine de sa chute. Il se jugea maladroit. Il se repassa au ralenti le film de son faux mouvement dans le pierrier. Il convint que l'oubli du bâton en était la cause principale. Il resta 3 jours dans son lit à méditer sur l'usage de ses membres inférieurs. Il plaignait les cul-de-jatte et estropiait de tout poil. Le manque d'autonomie lui pesait. Une chape de béton l'avait recouvert. Il fallait s'extraire de cette gangue avant d'être absorbé par ce sable mouvant. Le chirurgien lui rendait une visite quotidienne. À cette occasion, il apprit qu'on lui poserait un moulage en résine et qu'il pourrait sortir dans 48 heures. Sa joie fut de courte durée. Il apprécia les quelques mots du praticien. Tout d'abord, il ne retint que l'aspect positif, sa sortie en fin de semaine. Le côté négatif le rendit de fort méchante humeur. Sa jambe serait immobilisée au moins 1 mois et demi, et il lui faudrait suivre une longue rééducation. Voilà une escapade dont il se rappellerait. Maintenant que le sort en était jeté, il se demanda de quelle manière s'occuper pendant cette interminable période d'inactivité. Il ressentait des élancements dans son genou. Les effets de l'anesthésie disparus, il devait gérer lui-même la souffrance. Il disposait d'une bouteille, munie d'un curseur, aisément disponible pour le malade. Il préférait différer l'augmentation du dosage, tant qu'il supportait la situation. Le docteur l'informa qu'il subirait des moments douloureux durant les 2 jours à venir. La pose d'une coquille, afin d'immobiliser la jambe, lui apporta un confort supplémentaire. Il pouvait dorénavant effectuer les gestes ordinaires de la vie sans solliciter d'aide. Cela le rassura, car il redoutait les circonstances où il devait appeler l'aide-soignante pour se soulager dans un bassin ou un pistolet. Il se trouvait gauche avec sa patte folle. C'était sa formule. Il lui fallut apprivoiser les béquilles, ce qui ne fut pas une mince affaire. Il croyait que se déplacer avec des cannes s'avérait aussi simple que marcher. Il en fit l'amère expérience lorsqu'il glissa. Il ne dut son salut qu'au rebord du lit qui stoppa sa glissade. Les déplacements suivants furent abordés avec une grande prudence. Le personnel, aux petits soins malgré la charge de travail, permis au malade de supporter son séjour hospitalier. Il y mettait du sien, et son contact distingué en faisait un pensionnaire intéressant. Chacune y allait de son petit mot de réconfort. Arriva le moment de la sortie. Il fut surpris d'avoir supporté aussi bien son confinement dans cette chambre. Malgré les 2 lits, il n'eut personne avec qui partager ses longues journées. Il se posa des questions sur la gestion des capacités d'accueil de l'hôpital. Très vite, il conclut qu'il ne possédait pas toutes les données et qu'après tout, ce n'était pas sa priorité actuelle.